Notre gourmand de ce soir est chaque samedi de 6h à 9h dans la matinale sur la première. Franchise, spontanéité et audace sont les qualités qui m'ont donné envie de le rencontrer. Et lorsque je lui ai proposé de participer à la table des gourmands, il n'a pas hésité un seul instant. Il était en train de préparer une tarte aux pommes pour sa famille. Ce n'est pas un hasard s'il aime cuisiner. Avant de devenir journaliste et animateur radio, il était un grand cuisinier dans un hôtel zurichois. Comment passe-t-on des plaisirs de la bouche à ceux des oreilles? Il nous l'explique jusqu'à 19h.
La table des gourmands.
Antoine, bonjour.
Bonjour Sandra.
Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Nous sommes donc à Lausanne, dans un endroit que vous aimez particulièrement. Nous sommes à la Bouche qui rit. Pourquoi avoir choisi ce lieu?
C'est un lieu magique. Déjà par rapport à la qualité des produits qui sont proposés dans cette boucherie de la rue de la Madeleine. Et puis en plus, c'est un lieu original, puisqu'on peut choisir un morceau de viande et un accompagnement, puisque c'est aussi traiteur, un morceau de viande et un accompagnement dans la vitrine, et puis s'asseoir à l'une des tables qui sont aussi juste à côté de l'étal du boucher. Et puis, on prend votre viande, le morceau que vous venez d'acheter, on va en cuisine, on le prépare, et puis on vous le ramène. Et comme ça, vous limitez, si l'on veut bien, le temps d'attente entre l'achat, la salivation et la dégustation. Non, j'aime beaucoup cet endroit.
On l'a dit tout à l'heure, hein, avant d'être journaliste, vous étiez chef cuisinier. Alors, comment êtes-vous tombé dans la marmite ?
La première chose, en fait, qui m'a décidé à faire de la cuisine, c'est le fait que je voulais plus aller à l'école. Je voulais arrêter. Après ma scolarité obligatoire, la seule idée de continuer d'user mes fonds de culotte sur les bancs d'école me donnait des boutons. Alors bon, on a cette magnifique possibilité en Suisse de faire un apprentissage. Je me suis dit que j'allais choisir un apprentissage. Alors, on est allé à l'orientation professionnelle avec maman, comme tant d'enfants. Et puis, pour choisir un apprentissage, à la fin des années 80, la question c'était, alors, où est-ce qu'on est sûr que tu auras du boulot. Donc c'est la première chose qu'on regardait, que l'orientateur professionnel regardait plutôt. Et puis après, qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes le contact avec les gens? Est-ce que tu aimes bien manger? Et puis là, tout d'un coup, tilt. Ah oui, manger. Ça, c'est cool, manger. Oui, cuisinier, pourquoi pas? Tu es sûr d'avoir toujours du boulot? Ce sera bien. Il y a toujours des places d'apprentissage qui sont libres. Et puis, bingo, banco, j'ai fait quelques stages. Et puis, j'ai commencé l'apprentissage de cuisinier au restaurant du Soleil à Courfèvre, le 8/8/1988, en plus.
Riche de votre expérience, vous partez dans un grand hôtel de Zurich où vous étiez chef de brigade. Est-ce que ça a été difficile?
Alors deux petites précisions. Soyons précis, Sandra. Première précision, j'ai quand même fini meilleur apprenti jurassien en 1991. J'ai le diplôme signé par le ministre de l'époque dont j'ai oublié le nom, il m'en voudra pas. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, je suis arrivé à Zurich, au Dolder Grand Hotel à Zurich. Jean-Pierre Kneis, qui était le patron du restaurant du Soleil à Courfèvre, avait travaillé dans sa jeunesse dans cet hôtel. Et puis, il plaçait souvent, les apprentis qu'il voulait. Il leur proposait de postuler au Dolder Grand Hotel à Zurich. Il y avait une espèce de filière jurassienne dans les cuisines de cet hôtel. Comme d'ailleurs au Borolac, c'est assez intéressant, l'autre grand hôtel de la ville de Zurich. Deuxième petite précision, j'étais pas chef de brigade, parce que le chef de brigade dans une grande cuisine, c'est vraiment le chef de cuisine. Donc une brigade, c'est 40, on était quoi, une quarantaine de cuisiniers, il y avait plusieurs postes, il y avait le saucier, le rôtisseur, le garde-manger, le pâtissier, le boucher et l'entremetier. Puis moi, j'ai terminé ma carrière de cuisinier en tant que chef de partie, c'est-à-dire j'étais chef entremetier. J'avais quand même effectivement 10 cuisiniers professionnels sous ma responsabilité et un apprenti à former.
Quand vous arrivez, on vous fait faire quoi ?
C'est un souvenir assez horrible en fait. Je crois que dans ces grands hôtels, en tout cas à l'époque, fin des années 80, début des années 90 plutôt, on cherchait encore à tester un peu les gens, à tester un peu le commis pour voir s'il en avait sous le coude et puis pour voir s'il était vraiment motivé à rester dans ces grandes brigades d'hôtels de luxe. C'est la grande tradition des palaces. Et en fait, pendant une semaine, j'ai coupé des tomates. Vous imaginez, vous arrivez auréolé d'un magnifique CFC 5,5, je sais tout, vous allez voir ça les Zurichois, le Jurassien arrive, je vais vous en mettre plein la vue, et puis paf, qu'est-ce que j'ai fait pendant une semaine? J'ai coupé des tomates pour faire les réserves de concassées de tomates pour tout l'hiver. J'ai calculé, sauf erreur, à moins que mes souvenirs me trahissent, j'en ai coupé une tonne. Comme vous étiez le commis, c'est même pas vous qui aviez le droit de les cuire. Donc c'est le sous-chef de cuisine qui venait, et puis, attends, warte, Antoine, ich zeig dir, wie man es roch. Je vais te montrer comment est-ce qu'on cuisine ce genre de choses. Non, mais c'est une formidable expérience parce que évidemment quand vous faites dans un apprentissage dans un petit restaurant de campagne, alors vous apprenez très vite, vous êtes très vite au feu, vous êtes très vite en train de cuisiner des plats, vous êtes très vite en train de faire des viandes. Et puis quand vous arrivez dans ces grandes brigades, vous vous rendez compte que vraiment vous savez rien parce qu'il y a une différence entre une braisière et une rôtissoire, entre une sauteuse et une autre casserole dont j'ai oublié le nom. Vous prenez pas le légumier pour couper du poisson et puis vous prenez pas le filter pour hacher vos oignons. Donc il y a vraiment toute une rigueur qui est très intéressante, mais qui permet, je crois, au fil du temps, d'apprendre à faire des vrais bons produits, à cuisiner après des vrais bons produits. C'est la base, en fait. C'est ça qui est vraiment important.
Puis un jour, stop, pourquoi avez-vous décidé de quitter ce métier ?
Bon, alors déjà, moi j'ai commencé très tôt l'apprentissage de cuisinier, j'avais 15 ans. 8 ans plus tard, si vous calculez bien, j'avais 23 ans. Bravo. J'avais pas d'enfant, j'étais libre comme l'air. J'avais une solide expérience dans mon métier de base. Je me suis dit, mais bon, si j'essayais de faire autre chose, ça c'était la première chose qui me tournait en tête. Et puis la deuxième chose, c'est que la cuisine c'est vraiment un milieu très dur, hein, surtout dans ces grandes brigades. Ça gueulait tous les jours, quoi. Tout le monde s'engueule. Tout le monde se crie dessus pour que ça aille vite, etc., etc. Quand vous êtes jeune, que vous avez des responsabilités, ben vous avez tendance à mimer un peu ce que vous voyez autour de vous. Donc je devenais moi-même celui qui commençait de gueuler sur les autres. Puis j'avais pas envie de devenir comme ça. J'avais pas envie de ça, voilà, ça me ressemblait pas à moi. Et puis je me suis dit ben tiens, si j'essayais de faire autre chose.
Retour au Jura, retour à l'orientation professionnelle. Avec maman toujours. Comment ça se passe alors à ce moment-là ?
Bon, à 23 ans, j'avais moins besoin de maman qu'à 14. Hein. Je tiens quand même à le préciser. Maman, si tu nous écoutes, il n'y a pas de problème. Non, mais en fait, c'est assez drôle que vous parliez de ça parce que c'est justement ma mère qui revoit son petit canard arriver à la maison. Avec juste l'envie d'arrêter, mais pas spécialement de projet. Et puis elle me dit, mais toi qui as toujours aimé le son, toi qui as fait de la musique quand t'étais ado à la Maison des Jeunes à Delémont, est-ce que tu voudrais pas, je sais pas, faire de la radio, du son, des choses comme ça. Moi, je lui ai dit, mais ah oui, le son, ça pourrait être pas mal. J'avais des potes qui avaient commencé des formations, justement, électroniciens en audio vidéo, qui commençaient de faire des mix au caveau quand il y avait des groupes qui passaient. Et puis, je me suis dit, ah ouais, ça doit être un métier vachement intéressant. Alors, ouais, je vais faire ingénieur du son. Je vais passer de cuisinier à ingénieur du son. Alors, orientation professionnelle, effectivement. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il y a comme école ? Il y a une école ici à Lausanne qui s'appelait à l'époque l'ESIS, l'École supérieure d'ingénieur du son. Je me suis inscrit à ces cours. Et puis, à l'école, ils ont quand même dit, il faut un employeur qui pouvait faire du son. Et donc, j'ai écrit à Pierre Stelet, le patron de votre radio. Il se trouve qu'il fallait un technicien pour réaliser le bal du samedi soir de 23h à 1h du matin et quelqu'un pour réaliser l'émission qui s'appelle Les Dédicaces le dimanche matin. Donc voilà, je commence de réaliser ces deux émissions tous les week-ends. Je continue de faire des remplacements en cuisine dans la région de Delémont pour quand même un peu avoir des sous. Et puis, un beau jour, une animatrice était complètement à la bourre pour faire un micro-trottoir. Du coup, elle chausse son casque et puis elle prend son micro et puis elle va auprès des personnes les plus proches qu'elle trouve, mais qu'on n'entendait pas à l'antenne, c'est-à-dire un réalisateur, la secrétaire, enfin bon, voilà, tout ça. Et puis je lui parle dans le micro, quoi, puis elle me regarde, puis je vois ses yeux un peu changer comme ça. Puis une fois qu'elle a fini son enregistrement, elle me regarde, puis elle me dit « T'as encore un joli petit brin de voix, tu voudrais pas, tu pourrais pas faire de l'antenne, tu voudrais pas parler dans le micro plutôt que de pousser des boutons ?» Et puis donc, deux semaines plus tard, j'étais à l'antenne pour un 16h-18h sur Fréquence Jura, sur RFJ.
La table des gourmands.
De retour à la table des gourmands, en compagnie d'Antoine Droux, journaliste et animateur à la première, qui fut avant cela cuisinier. On partage les plaisirs culinaires en sa compagnie jusqu'à 19h.
La table des gourmands.
Est-ce que ça vous arrive, Antoine, par moment d'avoir la nostalgie de votre premier métier de cuisinier ?
Non, j'ai pas de nostalgie. J'ai pas de nostalgie parce que j'adore le métier que je fais maintenant. Vraiment, la radio, c'est ce qui me fait vivre. C'est cette notion de partage, de vecteur d'émotion. C'est un média énigmatique, c'est un média poétique, c'est un média romantique presque. Et puis, dans ma carrière professionnelle, avec l'apprentissage, j'aurais fait en tout et pour tout 8 ans de cuisine. Maintenant, j'ai dans les pattes 22 ans de radio. Donc la cuisine, c'est vraiment un lointain souvenir. D'ailleurs, je me verrais absolument pas maintenant de retour dans une cuisine professionnelle. La manière de préparer les plats a changé. Je le vois bien quand je vais au restaurant. La manière, les goûts ont changé, les structures des plats ont changé, leur composition. On fait de la cuisine nettement moins grasse. Enfin, je serais plus qualifié maintenant pour travailler dans une cuisine. Donc non, pas de nostalgie, une certaine affection et un peu de tendresse quand même maintenant, après l'écrit.
Avez-vous trouvé des concordances entre vos deux métiers ?
Le partage. Il y a cette notion de faire plaisir aussi dans le partage. Mais en cuisine et en faisant de la radio, il y a vraiment un don de soi. Donc vous êtes obligé de vous donner, quoi, de donner un petit bout de vous-même.
À l'heure actuelle, de plus en plus d'émissions proposent à monsieur et madame tout le monde de devenir chef en un claquement de doigts. Vous pensez quoi de tout ça ?
Moi, j'ai vraiment deux visions différentes par rapport à ces émissions. Une vision très positive, puis une vision très critique. D'abord, le positif. C'est Top Chef, Master Chef, c'est positif parce que ça a, ces dernières années, vraiment permis de rendre ce métier de cuisinier cool. Et ça a permis de montrer à quel point il était difficile, à quel point il était exigeant, et puis à quel point il pouvait être stressant. Positif aussi, ces émissions, elles le sont parce que elles montrent aussi toute l'importance de bien manger, qu'on prenne plus soin de ce que l'on met tous les jours dans le corps. Donc ça, c'est les aspects positifs de ces deux émissions. Après, moi, je suis très critique sur ces émissions parce que on veut nous faire croire que le métier de cuisinier, il est facile. C'est pas facile. Vous pouvez réussir un plat que vous avez travaillé chez vous à la maison pendant des années, ou une recette que vous avez travaillé chez vous pendant des années. Et puis, vous pouvez en travailler une, vous pouvez en travailler deux, vous pouvez en travailler trois, mais c'est pas ça, un cuisinier. Le métier de cuisinier, c'est pouvoir se dire, tous les jours, toute ma vie, quand je bosse, je fais des plats qui doivent être toujours au top, bons. Je dois respecter les coûts de production, je dois respecter les horaires de service, je dois respecter les normes d'hygiène, je dois respecter l'éthique, puisque comme tous les métiers, il y a une éthique chez les cuisiniers. C'est des aspects fondamentaux de cette profession qui, à mon sens, sont passés sous silence dans ces émissions de télé-réalité, malgré les quelques bons moments que j'ai pu passer devant ces trucs. Mais je suis pas un fanat, j'ai pas suivi toutes les saisons, tous les épisodes.